Ah oui, bah oui, donc je rejoins Marie-Hélène Le Maire, donc qui après des études en philosophie en Belgique, a fait une thèse sur de Lubac au collège Hébert Bourdin, et qui va nous parler de la vocation de femme intellectuelle.
Et non pas du père de Lubac ce soir.
Et non du père de Lubac.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre accueil. Je remercie aussi le père Florent Ourfels de m'avoir proposé de traiter avec vous le sujet de ce soir. Un sujet, je vous l'avoue, que j'ai trouvé très original, très beau et très difficile aussi. Alors, réfléchir sur une éventuelle vocation intellectuelle de la femme dans l'Église nous porte résolument sur un plan transcendantal. Aussi donc, je choisirai de comprendre l'Église comme désignant le plan de Dieu sur l'humanité. Je n'interrogerai donc pas la reconnaissance de la femme au plan institutionnel de l'Église. Or, parler d'une vocation intellectuelle de la femme dans le projet divin, disons les choses ainsi, suppose acquise l'idée que la différence des sexes interfère dans toutes les dimensions de la personne humaine, ou tout simplement qu'être une personne humaine, c'est toujours être un homme ou une femme. Si tel est le cas, on ne pourra défendre l'idée d'une vocation spécifique à la femme qu'en supposant une intelligibilité spirituelle de la corporéité féminine, c'est-à-dire en supposant que dans son corps même, l'être femme signifie d'une part quelque chose de Dieu, de qui il est, de ce qu'il veut, et d'autre part, module la coopération humaine à l'œuvre divine. Comment accéder à l'intelligibilité de l'être femme quand on sait que la manière dont on vit et interprète l'être femme dépend pour une part indéfinissable de conditionnements psychiques, culturels, représentationnels, vous savez tout cela, qui rendent pratiquement indiscernable un éventuel sens transcendantal essentiel de la femme. Pour discerner le projet de Dieu sur la femme, il faut en outre traverser toute l'opacification du sens généré par le péché. La recherche de ce sens, pour compliquée qu'elle soit, n'en est pas moins bonne et même nécessaire, parce que s'il y a une intention de Dieu mise au cœur de l'être de la femme, le faire advenir à la conscience concourra à la venue du royaume de Dieu. Évidemment, cette tâche implique de prendre le contre-pied du déconstructivisme ambiant de type derridien que l'on retrouve en particulier dans la théorie du genre, en ce qu'il implique le plus souvent un rejet de toute ontologie, sur la base cependant d'une confusion a priori entre le biologique et le naturel. Or, le naturel réduit au biologique ne porte plus d'intention divine. En revanche, une réflexion comme celle de ce soir suppose un ordre naturel qui ne se réduit pas à la matérialité biologique, mais participe de l'Esprit de Dieu, un esprit qui nous est donné en Jésus-Christ. C'est donc à la révélation chrétienne qu'il faut demander de nous faire connaître le dessein de Dieu sur la femme et sa vocation spécifique. Le fait est que, aussitôt que l'on considère le point de vue de la réalité féminine, on se trouve contraint de réfléchir sur la spécificité d'une humanité en vis-à-vis de l'homme et par conséquent sur la relation dialogale inscrite dans l'être de l'homme et de la femme. Aussitôt donc que l'on se met en quête d'une vérité essentielle à propos de la femme, il faut admettre qu'être au monde n'est possible pour l'homme et pour la femme qu'en se recevant dans la relation à l'autre. Car c'est dans la relation que s'édifie la personne humaine. Plus précisément, la structure nuptiale de l'être au monde, de l'être humain, indique pour celui-ci qu'être au monde n'est réalisable et salutaire que dans le don de soi. Et la vocation intellectuelle, s'il en est une, sera nécessairement ordonnée à cette vocation fondamentale au don de soi. Tel est donc le fondement sur lequel je vais développer mon intervention. Mais commençons par nous étonner. Comment peut-on dire que la vocation intellectuelle a un rapport nécessaire au don de soi ? C'est qu'on parle en effet d'une vocation, et que toute vocation s'enracine dans l'unique vocation fondamentale de la personne humaine appelée à l'être en vue de la communion avec Dieu. Or, ce donner doctrinal, reçu de la révélation de Dieu Trinité faite en Jésus-Christ, n'est pas seulement un contenu majeur de la vérité chrétienne, il est cette vérité même. Car Jésus, en qui Dieu se donne tout entier à l'humanité tout entière, a dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il a ainsi montré pour l'intelligence le chemin obligé. Quand ensuite il annonce que l'Esprit Saint nous conduira dans la plénitude de la vérité, le Christ confirme qu'il est cette vérité totale et que l'intelligence ne peut remplir sa vocation propre qu'avec l'assistance mystérieuse de l'Esprit Saint. Il en découle que la vocation intellectuelle, si elle ne veut pas usurper son titre de vocation, et si on la prend dans la perspective universelle et générale du projet de Dieu, cette vocation intellectuelle donc relèvera in fine de la quête amoureuse de Dieu. Ainsi, la vocation intellectuelle à connaître et à aimer la vérité est intérieurement, secrètement, mue par la vocation surnaturelle à aimer et connaître Dieu. Et précisément, toute la Bible est traversée par cette quête mutuelle de Dieu et de l'être humain, et cette quête est présentée sous les traits symboliques de l'amour nuptial. Dans la métaphore conjugale, le peuple saint de l'Ancien Testament, l'Église du Nouveau Testament, l'humanité tout entière, en définitive, est féminine vis-à-vis de Dieu qui se révèle lui-même comme l'époux véritable. La mise en perspective de la vocation intellectuelle en regard de l'Alliance biblique fait de l'intelligence la servante du Seigneur. Qui plus est, le critère de l'intelligence en chrétienté, c'est la charité du Christ qui surpasse toute connaissance. Si bien que, comme vous le savez, l'intelligence sans la charité n'est qu'une cymbale retentissante. Alors je vous parlerai en quatre temps. D'abord, je vais parler un peu de la création de la femme et de l'image divine dans l'être humain, homme et femme. Ensuite, je mettrai en relation deux dialogues bibliques qui manifestent l'enjeu capital de la vocation intellectuelle de la femme dans le projet de Dieu. Puis je dirai quelques mots sur le problème à unifier vocation intellectuelle et vocation à la maternité. Et je terminerai sur les figures de Marthe et Marie. Pour parler de la création de la femme, je vais commencer par mettre les pieds dans le plat, en revenant sur l'interprétation qu'en fait saint Paul dans certains passages restés un peu tristement célèbres. Car on peut difficilement nier l'impact qu'ont eu certains de ses propos. Ainsi, dans la première épître aux Corinthiens, quand il affirme que le chef de tout homme c'est le Christ, le chef de la femme c'est l'homme, car ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. On a un argument similaire dans la première épître à Timothée, où saint Paul interdit aux femmes d'enseigner ou de dominer l'homme. C'est Adam, justifie-t-il, qui fut formé le premier, Ève ensuite. Alors on trouve dans ces propos un certain mépris multiséculaire à l'égard de l'intelligence féminine. On dit, pour excuser saint Paul, qu'il a cherché à rassurer les païens sur les conséquences de la conversion des esclaves et des femmes. Ce qui en dit plus long, me semble-t-il, sur la misogynie des païens que sur celle éventuelle de saint Paul. Et c'est le point sur lequel je voudrais d'abord insister. Il y a une connivence foncière entre la misogynie et le paganisme. Si bien que la misogynie n'entre dans le discours chrétien que moyennant cette connivence avec un certain paganisme latent. La misogynie que l'on rencontre chez les pères de l'Église à l'occasion et jusque dans quelques propos de saint Thomas d'Aquin est toujours la marque d'une influence païenne. Chez le docteur Angélique, en l'occurrence, l'influence païenne est entrée dans son discours théologique par la voie de son assimilation d'Aristote. Pour Aristote, la femme est moins puissante intellectuellement que l'homme et elle est naturellement asservie à l'homme. L'assimilation thomasienne des principes aristotéliciens, ici comme sur d'autres points, ne s'est pas toujours montrée peut-être capable de laisser la révélation chrétienne transformer les représentations païennes véhiculées par la pensée grecque. Par contraste, on considérera à quel point les raisonnements méprisants à l'égard de la femme sont étrangers à toute la vie du Christ. Rien dans son attitude ne dévalorise les femmes ou leur intelligence. On notera au contraire son attention particulière à chacune d'entre elles et leur rôle unique dans le processus de l'autorévélation de Dieu. Non seulement le Christ est venu remettre la femme debout, comme il apparaît à travers les divers miracles et dialogues salutaires qu'il entreprend avec elle, mais encore, dans sa conscience messianique, le Christ semble se laisser interpeller par la manifestation de la femme collaboratrice. Et on en a eu encore un exemple dans l'évangile de tout à l'heure, d'ailleurs. Ainsi et surtout avec sa propre mère à Cana, mais également avec la cananéenne ou la syro-phénicienne donc, ou la samaritaine, ou encore Marie-Madeleine. Le rôle irréductible des femmes dans la vie de Jésus et l'annonce de la bonne nouvelle marque plus qu'un progrès, un véritable saut dans la promotion de la dignité personnelle de la femme, si bien que la libération de la femme apparaît comme un des signes du royaume. La promotion de la femme relève intrinsèquement de la nouveauté chrétienne. Alors si l'on s'est souvent servi de ces passages de saint Paul que j'évoquais pour inférioriser la femme par rapport à l'homme, sur le fondement du fait qu'elle a été créée après l'homme et tirée de lui, il est tout à fait possible de tenir le raisonnement inverse sur le même fondement scripturaire, en considérant que la femme ayant été créée après l'homme couronne la création, et il y a toute une série d'exégèses actuelles dans ce sens. Quoi qu'il en soit, l'essentiel se trouve sans doute dans le fait que la femme et l'homme constituent ensemble l'image de Dieu. C'est dans leur complémentarité, dans leur relation subsistante, que l'homme et la femme forment l'image de Dieu. L'accomplissement de cette image se trouve dans l'union du Christ et de l'Église, comme le suggère la théologie paulinienne, l'ecclésiologie paulinienne. Et ce n'est pas tant, à mon avis, que l'homme et la femme seraient respectivement le type du Christ et de l'Église, mais que l'union originelle de l'homme et de la femme se trouve son sens définitif dans l'union du Christ et de l'Église. Il en découle que le principe masculin et le principe féminin modulent tous deux, la nature de cette union, peut-être à la manière du binôme élection-universalisation qui traverse l'économie du salut. Dans cette hypothèse de réflexion que je vous propose, je reconnais dans l'élection un principe masculin qui est tendu vers l'universel dont le principe est féminin. Et toute l'histoire du salut semble se jouer entre ces deux pôles. Adam en regard d'Ève, les patriarches en regard du peuple de Dieu, le Christ en regard de l'humanité. Et jamais l'élection dans l'alliance judéo-chrétienne n'est envisagée en dehors de l'universel, en vue duquel, au contraire, se justifie l'élection. Jamais, inversement, l'universel n'est atteint sans passer par le principe de l'élection qui confère à l'universalité son caractère essentiellement concret. Dieu aime tous les hommes d'un amour de prédilection. Dans cette perspective encore, le principe masculin de l'élection relève de l'économie sacramentelle et le principe féminin de l'universalité désigne davantage l'eschaton, la réalité définitive de l'humanité conviée aux noces de l'agneau. Ce double mouvement d'élection et d'universalisation qui traverse l'histoire du salut depuis la création jusqu'aux noces de l'agneau, pourrait être encore radicalisé en trouvant son commencement dans la pulsation intra-trinitaire entre l'unité et la tripersonnalité. Ainsi donc, le mouvement biblique de l'élection en vue de l'universel montre un chemin en deux temps, qu'exprime la création de l'être humain en deux temps, et que l'on trouve en remontant plus haut dans le double principe trinitaire de la personne et de la relation. Complémentarité tellement insécable que la personne divine est définie par le dogme trinitaire comme une relation subsistante. Sur cette base, je pense que le masculin et le féminin éclairent ensemble, et non pas chacun de leur côté, le personnalisme issu de la révélation de Dieu Trinité. C'est dans leur relation qu'ils sont à l'image de Dieu, plus précisément à l'image de la Trinité, qui consiste dans la circumincession, dans l'intériorité réciproque de relations subsistantes, puisqu'ainsi sont définies les personnes divines. Créée à l'image de la Trinité, l'humanité est une et différenciée, créée dès le départ comme une communion de personnes, dont le paradigme se trouve dans l'union différenciée de l'homme et de la femme. Ensuite, si nous disons que l'homme et la femme sont ensemble à l'image de Dieu, il ne faut pas oublier que cette image n'est pas encore la ressemblance. Nous ne savons pas encore exactement qui nous sommes véritablement parce que nous ne voyons pas encore Dieu. Quand nous verrons Dieu, nous nous verrons tels que nous sommes. Le mystère interpersonnel de l'homme et de la femme doit ainsi être considéré à partir du mystère de la Trinité, dont la contemplation vient guérir et éclairer l'anthropologie chrétienne. Créés à l'image de la Trinité, nous sommes intérieurs les uns aux autres et cette intériorité réciproque décrit notre manière d'être des personnes. En attendant de voir Dieu, nous contemplons en Jésus et en Marie la parfaite complémentarité de l'homme et de la femme, telle que si le Christ est notre unique médiateur, de notre point de vue, le salut du Christ passe nécessairement par la médiation de Marie. La seule créature à être, dès à présent, ressuscitée aux côtés du Christ, précisément en vertu du caractère pour nous nécessaire de sa médiation. Tout être humain est sauvé par le Christ qui s'est fait homme, mais ne peut naître d'en haut qu'en dépendance du consentement total à Dieu, lequel consentement est accompli en une femme, Marie, si bien que l'on dépend tous de son oui. Ce qui revient en fait à dire que Marie participe à tout ce qu'est le Christ jusqu'à son universel concret. Alors en ce qui concerne le récit de la création de la femme, je relèverai seulement trois points. Premièrement, pendant que Dieu crée la femme, le récit biblique montre Adam plongé dans un sommeil extatique, une sorte de torpeur mystique qui plus tard tombera également sur Abraham, au moment où Dieu scellera avec lui son alliance sainte, au chapitre 15 du livre de la Genèse. C'est qu'il y a d'emblée dans l'intention de Dieu qui préside à la création de la femme la perspective de l'alliance qu'il veut faire avec l'humanité. Il y a ainsi entre l'advenu à l'être de la femme et l'avenu de Dieu une correspondance profonde. Le deuxième point que l'on peut relever abonde justement dans ce sens. Dieu façonne la femme comme un édifice. Le terme hébreu et le terme grec correspondant font clairement allusion à la construction d'un édifice. Ici est suggérée l'idée que la femme est bâtie comme un temple. Voilà qui vient renforcer l'idée que la femme est créée en vue de la venue de Dieu au sein de l'humanité. La femme est créée comme le sanctuaire de l'homme, sans doute, mais non pas à la manière d'un moyen pour une fin, mais d'une fin à l'image d'une autre fin. La femme est de l'homme son intériorité, à l'image de l'intériorité de Dieu en tout être humain. La femme est le sanctuaire de Dieu, au sens littéral, dans son corps. Dans son corps destiné à accueillir l'épiphanie de Dieu dans de nouveaux visages. Ce que l'homme ne peut imaginer pour lui-même que par le détour de l'analogie, la femme peut le comprendre littéralement. Et à ce sujet, je fais ici mémoire d'Alice von Hildebrandt, une philosophe et théologienne belgo-américaine décédée le 14 janvier dernier, qui relevait le fait que la communication de l'âme par Dieu à l'embryon conçu se produit dans le corps de la femme. En elle, Dieu se rend présent et opérant pour créer une personne humaine. Cette réflexion donne tout son sens à l'idée selon laquelle la femme est créée comme un temple destiné à recevoir la présence de Dieu qui fait alliance avec toute humanité. Le troisième point que je relève, c'est qu'on peut observer dans le texte grec une allitération qui joue sur les mots « côte » et « cautérisation ». Dieu prit une côte, pleura en grec, et il referma son côté, ana plero. Jouant sur la racine verbale du plérôme, qui aura une grande valeur théologique dans la doctrine de saint Paul, lorsqu'il présente l'Église comme le plérôme du Christ, c'est-à-dire comme sa plénitude. L'Église est la plénitude du Christ, son achèvement, son comble. Et l'homme lui-même n'est achevé que dans le vis-à-vis de la femme sur le plan de la création. Donc ici, évidemment, je ne fais que lancer des pistes à chaque fois. J'en viens à mon deuxième point, où je vais tâcher de mettre en relation deux dialogues bibliques qui ont fait basculer l'humanité, vous devinez lesquels, pour le pire avec Ève et pour le meilleur avec Marie. Le premier de ces dialogues est entre le serpent et Ève, qui conduit au péché originel. Péché d'Ève qui inclut aussi le péché d'Adam. Et tout est décrit dans un seul verset, le verset 6 du chapitre 3 de la Genèse. Je le rappelle quand même vite fait. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était, cet arbre, désirable pour acquérir l'entendement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Alors on pourrait reconnaître dans les trois moments, il y a trois moments détaillés de la considération d'Ève, les trois transcendentaux. Elle voit que l'arbre est bon à manger, beau à voir, et désirable pour acquérir le discernement, l'intelligence, la sagesse, la raison. C'est un terme qui est positif, utilisé ailleurs dans la Bible. Ève met en œuvre toute son intelligence, toute son activité spirituelle, pour se réaliser sans passer par Dieu. C'est proprement la perversion de l'élan vers Dieu qui est analysée dans le péché d'Ève, ce qui suggère, à contrario, une connivence essentielle entre la vocation propre de l'intelligence féminine et la dépendance ontologique de l'être humain à Dieu. On peut dire que, je pensais à ça tout à l'heure en écoutant l'homélie du prêtre, on peut dire qu'Ève a eu un rapport idolâtrique à l'intelligence. Son péché consiste à vouloir connaître le réel en dehors de la relation à Dieu. Elle qui a justement été créée dans la relation. Elle veut connaître comme Dieu, mais sans Dieu. Et ce péché touche à ce point l'être même de la femme que c'est dans la relation qu'elle aura le plus à souffrir en conséquence du péché. Quant à la promesse de salut esquissée au terme du récit de la chute, cette promesse de salut montre qu'une hostilité est mise, comme vous savez, désormais entre la femme et le serpent et leurs descendances respectives. Il est ainsi suggéré que le combat spirituel de la femme devra mener s'étend à toute l'histoire de l'humanité, comme si le sort de la femme et celui de l'humanité étaient inextricablement liés. Et le combat spirituel qui marque le temps de l'histoire de l'humanité se joue d'une manière singulière, en effet, dans la vie de la femme et dans sa fécondité. Une fois encore, Eberl a souligné l'importance capitale de l'intelligence de la femme pour coopérer à la victoire définitive du Christ. L'intelligence qu'elle aura de qui elle est en particulier. La femme n'a pas idée de qui elle est. L'antique serpent, lui, l'avait bien deviné. En s'adressant à Ève, il a cherché à profaner le temple que Dieu a bâti dans l'humanité pour y attirer, recevoir et laisser passer Dieu. Attirer, recevoir et laisser passer Dieu. C'est une trilogie que j'emprunte à Teilhard de Chardin, qu'il applique au féminin par la contemplation de la Vierge Marie. Et dans cette trilogie, je reconnais en particulier les vertus du temple. Attirer, recevoir et laisser passer Dieu, ce sont peut-être aussi les vertus féminines qui transcendent le mieux les stéréotypes en orientant l'être de la femme, non pas seulement dans son corps, mais dans toute sa personne. Alors le deuxième grand dialogue biblique entre un ange et une femme se trouve évidemment dans le récit de l'Annonciation. Il se fait que l'intelligence est également au cœur du récit évangélique de l'Annonciation, comme le pressentent les artistes religieux qui ont représenté la Vierge Marie pendant le récit de l'Annonciation, non pas occupée à faire le ménage ou la cuisine, mais tenant dans ses mains un livre ouvert. C'est dans l'intelligence attentive d'une femme que le Verbe de Dieu a été conçu. Instruite, Marie a surtout l'intelligence des livres saints, c'est-à-dire au fond de l'intention de Dieu. Lorsque l'ange Gabriel salue la Vierge Marie, celle-ci se demande ce que signifie cette salutation. L'évangéliste montre ainsi que Marie va coopérer avec toute son intelligence. Et de fait, l'attitude de Marie manifeste qu'elle met en œuvre tout à la fois son intelligence et sa foi pour adhérer au projet de Dieu. Et quand elle précise qu'elle ne connaît pas d'homme, certes, elle dit ainsi qu'elle n'a pas de relation conjugale, mais s'il est permis de se risquer à une interprétation plus spéculative, on peut comprendre qu'elle ne connaît que Dieu seul. Et en effet, l'Esprit Saint, le Saint des Saints, viendra sur elle, et la puissance du Très-Haut la prendra sous son ombre, exactement comme la nuée, dans le livre de l'Exode, descendait sur la tente de la rencontre dressée au milieu d'Israël. Autant donc le péché du monde a consisté dans le choix d'acquérir l'intelligence en dehors de l'unique Esprit de Dieu, autant le salut du monde passe par le moyen précis de ne connaître Dieu que par son Esprit Saint. Alors il est un autre passage de l'Évangile de Luc que je voudrais relever ce soir. Au terme du récit de la Nativité, il est écrit que Marie symbolisait tous ces événements dans son cœur. C'est au chapitre 2 de l'Évangile de Luc, verset 19. Quant à Marie, elle conservait toutes ces paroles, les méditant, les symbolisant dans son cœur. Alors on se trouve, comme dans le récit de l'Annonciation, dans un genre littéraire que l'on dit apocalyptique, dans lequel, justement, conserver dans son cœur caractérise l'attitude du serviteur de Dieu qui récapitule les événements pour mieux répondre à la vocation reçue. Alors ici, on a en plus un redoublement, car non seulement elle conserve, mais elle médite, elle symbolise, elle met ensemble les paroles et les événements. Dans ce double mouvement de conservation et de méditation, de symbolisation, Marie met en œuvre toute son activité spirituelle, puisque, comme vous savez peut-être, dans l'anthropologie sémitique, le cœur est le siège aussi bien de l'affectivité que de la volonté et de toute l'intelligence. Alors on pourrait dire que la conservation est un acte de la mémoire et de la volonté par lequel on permet aux événements de s'enraciner en nous, tandis que la symbolisation vise plus spécifiquement l'acte de l'intelligence. Saint John Henry Newman, dans son essai sur le développement de la doctrine chrétienne, a relevé que dans cet acte de symbolisation, Marie était notre modèle dans la foi, dans la réception et dans l'étude de la vérité divine. Elle offre ainsi le symbole de la foi et du raisonnement. En elle ainsi est révélé, si l'on peut dire, le génie de l'intelligence féminine, son aptitude à symboliser l'œuvre de Dieu dans l'humanité. C'est en définitive parce qu'elle avait en puissance cette capacité à symboliser le don de Dieu et le don de l'homme qu'Ève fut approchée par le diviseur, le diabolos, qui a cherché à perdre Ève pour perdre avec elle l'intelligence de la relation de l'être humain à Dieu. La Vierge Marie, dans l'exercice de son intelligence symbolisatrice, a réalisé ce qu'elle est ontologiquement, la relation à Dieu. Et c'est pourquoi elle demeure en avant de nous tous, qui ne sommes pas encore dans cette pure relation à Dieu. Marie est ainsi considérée dans l'Église comme l'icône eschatologique de l'Église, ce qui signifie qu'en elle, l'humanité contemple sa libération totale par Dieu comme une relation totale à Dieu. Conçue immaculée, c'est-à-dire libérée de toute entrave liée au péché, Marie, dans l'élan de son intelligence, atteint la vocation de son être, au point d'être la première ressuscitée avec le Christ. Alors j'en viens à mon troisième point. La bonne nouvelle, c'est que plus on approche de la fin, plus les points sont plus petits, durent moins longtemps. Dans lequel je voudrais réfléchir un peu avec vous en ce qui concerne la relation quelque peu tendue entre vocation intellectuelle et vocation à la maternité. Une mission qui se présente peut-être à la femme intellectuelle d'ailleurs pourrait être de se réapproprier réflexivement la très haute dignité de la maternité plutôt que de vivre et penser en exclusion réciproque la vocation intellectuelle et la vocation maternelle. La maternité est souvent décrite et ressentie comme un fardeau incompatible avec la vocation intellectuelle et le mariage comme le lieu d'une suggestion de la femme. Les tâches écrasantes de la fécondité apparaissent à la mère comme un obstacle, en effet, à son épanouissement personnel. Un des arguments les plus anciens en faveur du célibat pour le royaume en ce qui concerne la femme a souvent été précisément de mettre en balance d'un côté la liberté de la vie consacrée et de l'autre la servitude de la vie matrimoniale. La mise en exclusion réciproque entre vocation intellectuelle et maternité ne manque pas de cause. Nous avons tous à l'esprit la critique sans appel de Simone de Beauvoir. Le malheur de la femme est d'avoir été biologiquement vouée à transmettre la vie, ce qui la rend plus proche du règne animal et plus asservie à l'espèce que l'homme. C'est pas moi qui le dis, c'est Simone de Beauvoir. Si parmi les femmes qui ont voulu concilier la vocation intellectuelle et la vie matrimoniale, il s'en trouve en effet beaucoup qui finissent par abandonner soit leur mari, soit leur carrière, il s'est aussi toujours trouvé des femmes capables d'embrasser les deux. Et je salue ici la première femme à avoir réussi le concours à l'ENS, il y a 112 ans, Marguerite Rouvière, qui était d'ailleurs très appréciée des talents de l'époque, semble-t-il. Elle se maria, elle eut 3 enfants, et cet état ne marqua pas l'arrêt de sa carrière intellectuelle. Mais il est vrai qu'en Simone de Beauvoir, dans le deuxième sexe, considère la femme comme aliénée par l'homme et par l'enfantement, on ne peut pas dire qu'elle présente à la femme une anthropologie épanouissante. Sans nier la pertinence de certaines de ses vues, je note le caractère antipersonnaliste de l'anthropologie beauvoirienne, qui réduit le corps de la femme à une prison qui n'est supportable qu'à la condition d'être niée. De même, le féminisme trop souvent repose sur une conception réductionniste du corps féminin, une conception infrapersonnaliste, pour être précis. Il en découle, subrepticement, l'idée qu'être personnel n'est possible que moyennant un certain affranchissement de l'être corporel, réduit préalablement à la dimension animale, biologique et donc aussi à ses déterminismes. On assiste alors à une sorte de paradoxe dans lequel la femme, pour être davantage elle-même, se sent contrainte de démissionner de son être biologique. Une tâche intellectuelle de la femme ici consistera à réconcilier la femme avec son corps, ce qui passe par une inversion des perspectives. C'est-à-dire que pour la femme, intégrer son corps dans sa vocation intellectuelle impliquera d'accéder plus pleinement à la signification personnaliste de son corps, et donc à élever l'intelligence du corps dans la sphère de la vocation humaine. Pour véritablement s'affranchir du réductionnisme biologique, il faudra donc commencer par distinguer l'être corporel et l'être biologique. La conception biologique du corps induit une mise en opposition, je me répète un peu, de l'être corporel et de l'être personnel, que ne permet de surmonter qu'une conception personnaliste du corps. Dans celle-ci, la structure conjugale du corps signifie la dimension extatique de la personne humaine appelée à la communion des personnes. Et cette vocation personnelle est plus profonde que toute détermination biologique. Pour devenir pleinement une personne humaine sans nier quoi que ce soit de sa corporéité, la femme gagnera à développer une conscience éminemment personnaliste de son corps, compris comme le lieu de la réalisation la plus authentique de sa vocation humaine. C'est là que la théologie du corps de Jean-Paul II peut être particulièrement utile et éclairante, en ce qu'elle fait coïncider justement la vocation de la personne humaine avec la structure nuptiale du corps humain. L'approche personnaliste du corps préside à la doctrine catholique en ce qui concerne la Vierge Marie, quand les pères de l'Église comprennent que la Vierge Marie a enfanté le Christ par sa foi avant de le faire dans son corps. À aucun moment dans la doctrine catholique, la maternité de Marie n'est réduite à son instrumentalité biologique, contrairement peut-être à ce que l'on trouve parfois du côté protestant. Et c'est pourquoi, loin de réduire le rôle de la nouvelle Ève à la maternité, la théologie mariale élève plutôt la maternité de la femme à sa vocation spirituelle la plus haute, qui est d'accueillir le don de Dieu. Ainsi, la vocation maternelle de Marie est si éminemment personnaliste qu'en s'y donnant, Marie est devenue pour elle-même et pour le genre humain cause de salut. Là, je citais saint Irénée de Lyon. Alors, pour mettre en perspective l'apparent dilemme entre la vocation intellectuelle et la vie matrimoniale, je vous invite dans mon dernier point, très bref, à méditer sur l'épisode de Marthe et Marie. Je vous rappelle cet épisode. Jésus est reçu chez Marthe et Marie. Marthe s'affaire aux préparatifs de l'hospitalité pendant que Marie reste assise tranquillement à écouter le Seigneur. Marthe en est offusquée, d'autant plus que Jésus semble s'en accommoder. Mais Jésus répond que Marie a choisi la meilleure part et qu'elle ne lui sera pas enlevée. Marthe et Marie ne sont pas nécessairement une femme mariée et une femme intellectuelle. Et bien qu'on ait traditionnellement reconnu dans ces deux figures les deux états de vie dans le monde ou religieux que peut connaître une femme, je préfère y voir deux attitudes spirituelles qui transcendent la question de l'état de vie et viennent éclairer notre problème de ce soir. Tout d'abord et essentiellement, c'est le dialogue entre Marthe et Jésus qu'il faut retenir, parce qu'il illustre sans équivoque l'existence d'une vocation intellectuelle de la femme, et en même temps la reconnaissance par le Christ lui-même de ce que cette vocation est supérieure à tout autre. Certes, la vocation intellectuelle dont je parle est liée en fait à sa condition de créature appelée à la contemplation de Dieu, et donc principalement ce passage de l'Évangile illustre que Jésus vient libérer la femme par le rappel constant de sa vocation surnaturelle. On a donc d'un côté la femme absorbée dans les services multiples de l'hospitalité et de l'autre la femme réceptive à la présence du Seigneur, totalement libre dans la contemplation de la parole de Dieu. Marie est à l'essentiel. Toute femme est ainsi reconduite à son unique nécessaire, se trouvant mise devant la tâche de se déprendre de ses propres tâches. Voilà une fragilité toute féminine de se laisser phagocyter par les besoins concrets de l'hospitalité, versant négatif de sa grâce particulière qui lui permet d'être plus attentive que tout autre aux besoins de sa famille. Mais elle ne doit jamais en perdre de vue son unique nécessaire. Et de ce point de vue, honorer sa vocation intellectuelle lui sera d'une grande aide une fois venue l'heure des responsabilités matrimoniales. Et là, j'avoue que je parle d'expérience. Jésus est donc pour la femme l'unique nécessaire, selon une expression merveilleuse de Maurice Blondel qui trouve ici un beau fondement scripturaire. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses, une seule est nécessaire. Ce faisant, Jésus affranchit complètement la femme de ses tâches ménagères. Il l'arrache à la prétendue servitude de sa charge domestique en lui montrant que la meilleure part pour elle, et je le répète, quel que soit son état de vie, la meilleure part pour la femme est de demeurer dans l'écoute et la contemplation de la parole de Dieu, où elle apprendra en effet à être libre. L'être de la femme est pour Dieu, et son unique et indispensable ministère féminin sera donc l'accueil contemplatif de la parole de Dieu. N'est-ce pas le ministère qu'a accompli la Vierge Marie ? Ainsi donc, prenons-la comme notre oratoire intérieur, afin que notre vocation intellectuelle demeure vigilante à la venue du Seigneur. Merci beaucoup.
Je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau et d'aussi intelligent sur le sujet.
Ah ben, merci beaucoup.
Marie, il me reste... J'ai un peu travaillé la question, et c'est... Parce qu'on publiait ça, il nous reste 10 minutes. Donc vous pouvez la bombarder de questions.
Oui, je dirais c'est une bonne question, suivant.
Je vois Marie.
Merci beaucoup pour votre exposé. Juste une question sur votre thèse sur laquelle l'universalisation serait plus le fait de la femme et l'élitisme de l'homme.
Pas l'élitisme, l'élection.
C'est un autre débat.
Ces appropriations, est-ce qu'elles ne sont pas un petit peu arbitraires? Parce qu'on pourrait les poser dans l'autre sens, par exemple dire que l'homme c'est le généraliste, et la femme, elle est dans sa tour, elle est inaccessible, elle est l'autre, et donc elle serait du côté de l'élection, parce que l'homme est du côté de l'universel.
Alors oui, j'ai quand même très clairement dit que c'était une hypothèse de réflexion, hein, donc ce n'est pas une thèse, et effectivement ce n'est pas la partie la plus certaine de mon exposé, c'est une réflexion qui m'est venue au départ, en fait, en réfléchissant sur la question de l'ordination sacerdotale des femmes. On m'avait posé la question de qu'est-ce que je pensais de l'ordination des femmes et enfin de l'éventualité de l'ordination des femmes. Et je m'étais dit à ce moment-là que c'était une erreur peut-être de prendre la question par la catégorie du genre. Et ce n'est pas que tout homme peut être appelé à la vocation sacerdotale, c'est que certains hommes le sont. Et à partir de là, j'ai commencé à faire une réflexion entre masculinité et élection dans le sens sacramentel. Et du coup, il m'a semblé qu'il y avait peut-être une piste, effectivement, puisqu'il y a l'homme qui est créé d'abord et la femme ensuite. Avec la création de la femme, on a l'idée de toute l'humanité, en fait, puisque à ce moment-là, l'humanité est créée, est achevée d'être créée, si je puis dire. Maintenant, ce que vous disiez, qu'on peut tout à fait inverser, oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai parlé à ce moment-là de principe masculin ou de principe féminin, précisément pour laisser entendre qu'il n'y avait pas nécessairement de recoupement entre ces idées en tant que principe et le fait d'être femme, d'être homme, femme. Voilà encore une parole inclusive. Être homme ou d'être femme, quoi. Voilà.
Moi, je croyais que c'était une des nombreuses idées géniales que tu as utilisées. C'est peut-être celle qui m'a le plus retenu. J'ai jamais lu ça nulle part. C'est toi qui as trouvé.
Oui.
je vois quand même deux arguments. Bon, on réfléchit, hein, je dis pas. Mais ça fait un peu penser d'ailleurs à la première lecture d'aujourd'hui. Hein.
Oui.
C'est par les femmes. Bon, pour le coup, elles sont païennes et idolâtres, mais. ça dit quelque chose de la mise en danger de l'élection universelle.
Oui,
et puis alors, de manière beaucoup plus positive, si vous voyez la généalogie de Matthieu, vous savez qu'il y a cinq femmes, c'est toutes des femmes à problème, et hormis la Vierge Marie qui n'est pas païenne, mais qui ouvre
problème.
Comme Église, si on pense qu'elle représente l'Église, qui est vraiment l'ouverture de l'Alliance aux païens, donc c'est celle qui est la moins païenne de toutes, mais c'est celle qui est la plus incluante du paganisme, de manière plutôt réussie dans son cas. Mais toutes les autres, donc c'est celles qui viennent ouvrir, qui viennent faire avancer l'histoire en sortant justement une élection qui pourrait s'enfermer dans une impasse.
Exactement, et c'est aussi l'évangile de ce jour, précisément, c'est une
syrophénicienne. Oui, tu l'as cité aussi.
Oui.
Voilà. Donc je pense que bibliquement, on aurait quand même des billes pour défendre ça. Attends, l'idée m'a traversé l'esprit, puis elle est repartie juste après. Bon, l'autre idée que je vois, alors ça c'est plus philosophique, mais c'est un vieux truc auquel je réfléchis, mais j'ai jamais réussi à lui donner un contenu. Enfin, je sais pas si c'est convaincant, mais j'essaye de. Comment dire. Enfin, c'est assez. J'ai le vague pressentiment que notre intelligence. On est, voilà, comme nous sommes, comme le corps n'est pas un accident de l'âme, en tout cas dans une bonne anthropologie thomiste, en fait notre activité la plus spirituelle, la plus intellectuelle, elle est étroitement conditionnée par notre corporéité.
C'est ça un peu une idée sous-jacente.
Et il me semble que, un peu dans la ligne du corps féminin qui est temple, donc s'il n'y a que Dieu, enfin, je ne vois pas comment ça peut être plus universel que ça, alors que masculin. Peut être prêtre. Vous voyez, j'avais ce sentiment que justement l'intelligence féminine était prioritairement, c'est pas exclusivement, mais prioritairement symbolique, et c'est un peu ce que tu as dit aussi, alors que l'intelligence masculine, alors moi ça me marque beaucoup que j'ai fait des maths, mais elle est prioritaire, elle n'est pas symbolique, elle est plutôt dialectique. Parce que les mathématiques, c'est une grande dialectique, on est toujours sous le signe du négatif, c'est-à-dire un grand problème de logique. C'est qu'est-ce qu'on arrive à poser une structure rationnelle simplement par des différences relatives, en fait, par des définitions, sans jamais avoir à montrer positivement quelque chose. Alors ça va dans le même sens, parce que le symbole, le propre du symbole, c'est de réunir. C'est ça, un symbole. Hein. Il réunit deux choses. Donc ça, si c'est symbolique, il y a quand même aussi une ouverture à l'universel. Par contre, si c'est dialectique, le propre du dialecte, c'est que ça exclut, c'est non. Bon, ben, l'élection, si on est juif, ben, on n'est pas païen. Donc je trouve que dans le, on retrouve en fait dans ce fonctionnement de l'intelligence quelque chose un peu de cet ordre-là. Il s'agit d'une priorité, c'est même pas, c'est une priorité qui est même symbolique d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut très bien être un homme, avoir une intelligence très symbolique, et être une femme et être un génie en maths.
Oui, c'est ça,
il
n'y a pas
de problème. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que pour, il faut déjà. Seul le féminin permet de penser ces espèces d'appropriation, puisque c'est propre d'une intelligence symbolique. Donc ça reste une hypothèse, mais qui, à mon avis, mériterait d'être creusée, parce que je trouve qu'il y a. Je vois des confirmations dans des champs de pensée assez différents, mais qui confluent dans le même.
J'ai vu une main.
Oui. Vous avez dit tout à l'heure, je crois, que les pointes misogynes dans Paul.
J'ai été gentil.
Ou dans les Pères de l'Église jusqu'à Saint-Thomas d'Aquin, c'était en quelque sorte l'écume du paganisme. Mais ça, je comprends très bien ce que vous voulez dire par ça.
Oui, alors c'est vrai que je reconnais volontiers que là aussi il y a peut-être un raccourci, mais il est quand même assez notoire que le regard sur la femme est d'une manière assez exclusivement positive dans le christianisme, alors que dans le paganisme, souvent, il y a une conception infériorisante de la nature féminine par rapport à l'homme. C'est dans ce sens-là. Ce paganisme-là, en tout cas. Alors, c'est vrai qu'il y a, il existe peut-être des paganismes qui défendent l'inverse. Bon, il y a, ça effectivement, ça mériterait peut-être réflexion. Toujours est-il que on doit constater que, d'une part, donc, les propos de saint Paul sont, que je citais, sont adressés à des païens, et précisément, on les justifie comme étant une manière de rendre accessible le christianisme à une société dans laquelle il n'y avait pas de telle reconnaissance de la femme, d'une part. D'autre part, chez saint Thomas d'Aquin, clairement, la conception de la nature féminine, ça vient pas de l'Évangile, quoi.
Non, ça, je pensais
que c'était de Platon. C'est vrai que j'ai parlé d'Aristote, mais il y a Platon.
Toujours, c'est toujours de dire, comme la femme est réputée plus sensible, elle est plus, plus émotive, elle se laisse davantage dicter par ses émotions que par sa raison. Alors ça, c'est devenu un lieu commun qu'on a chez plein d'auteurs de l'Antiquité. Alors, bon, c'est des hiérarchies. Hein, mais plus simplement, moi, il y a un truc que j'aime bien dire quand je fais des préparations au mariage, c'est que le premier texte féministe que je connais, pas le plus ancien que je connaisse, c'est vraiment Genèse 3, parce que Genèse 3 entérine quelque chose d'assez universel dans ces horribles cultures patriarcales de l'Antiquité, c'est que l'homme domine la femme. Mais il présente clairement cette domination comme la conséquence d'un péché, donc c'est-à-dire une déviation par rapport au projet original de Dieu.
Exactement. Ouais,
ça, je trouve que c'est quand même hyper fort comme. Et par ailleurs, en tant que.
Et non pas comme quelque chose de naturel.
Non, c'est ça, c'est pas, en tout cas, c'est absolument pas dans le dessein de Dieu.
Exactement. Ouais.
Donc il y a une espèce de réalisme, alors vous me direz, c'est une maigre consolation de se dire qu'on est dans la merde, mais c'est parce qu'on est pécheur. Ça fait quand même la différence avec le manichéisme ou le gnosticisme. Qui vous dit que purement et simplement la matière est mauvaise, par exemple. Ah, oui. Bon, ça ouvre quand même une porte à la rédemption. Si, là encore, j'ai une idée, même si je suis vraiment trop vieux. J'avais une idée. Ah oui, et toujours dans ton analyse là, de Genèse 2-3, là, qui m'a bien intéressé, tu sais que le mot hasard, normalement, ça qualifie toujours l'aide que le supérieur apporte à l'inférieur. C'est aussi moi ce que je dis dans mes préparations de mariage, c'est que très clairement, en Genèse 2, c'est la femme qui est supérieure à l'homme. Parce qu'il y a deux aides. Hein. Il y a l'aide que. Il y a la fausse aide, mais je vous l'ai dit mille fois, hein, mais la fausse aide, c'est celle que c'est quand quelqu'un fait un truc que je peux faire, mais ça m'emmerde de le faire, typiquement la vaisselle. Je demande au prince, c'est que je sais faire la vaisselle, mais je préfère que les princes préfèrent qu'Étienne fasse la vaisselle. Là, alors ça, c'est une fausse aide, parce que si Étienne n'est pas là, je peux très bien faire la vaisselle moi-même. Par contre, la vraie aide, c'est celle qui, si elle me fait défaut, je n'ai pas de solution. Alors ça, c'est en hébreu, alors nous, on a le même mot aide, et c'est vrai que souvent, surtout quand il s'agit de la république homme-femme, on imagine tout de suite...
Oui. Et c'est un terme
la femme qui ne s'appelle pas encore Ève, d'ailleurs, parce que le fait que l'homme la nomme, c'est aussi une conséquence du péché. Elle s'appelle la femme, elle n'a pas de nom propre, c'est comme Dieu, ça. On imagine tout de suite, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie dans notre intelligence bien corrompue des pieds. On dit, oui, quand même, il y a la bouffe et tout ça, et le ménage, c'est quand même pas Adam qui va faire tout ça. Ça fait longtemps que la Bible dit, à mon avis, Genèse 2, honnêtement, je pense que le sens littéral est plutôt l'inverse. Et les hasards, c'est Dieu vient à mon aide, c'est-à-dire que c'est la femme qui est médiatrice du divin, exactement pour la raison que vous disiez. Et donc, ça fait aussi comprendre d'ailleurs pourquoi est-ce que le diable la tente, et c'est vrai qu'elle a l'air plus intelligente que Adam qui se laisse complètement hors du coup, il regardait téléfoot en mangeant des papilles. Mais c'est quand même, s'il fait chuter Adam, en fait, Ève, elle s'en moque un peu. Par contre, si le diable fait chuter elle, bah, c'est sûr que dans la suite, Adam, il est foutu aussi qu'il fasse tout seul, puisqu'elle est médiatrice du divin. Et par contre, l'inversion des deux, elle exprime exactement ce que c'est que le péché. Qu'est-ce que c'est que l'essence même du péché? C'est de prendre appui sur une grâce de Dieu pour refuser Dieu. C'est ça l'essence du péché, c'est pas simplement on dit je veux rien avoir avec toi, hein, Dieu, c'est qu'on reçoit quelque chose de lui, mais au lieu d'utiliser comme un chemin vers lui, on l'utilise pour s'en séparer. Donc tant que le péché domine, d'une certaine manière, c'est normal que l'homme domine la femme. Par contre, avec le Christ, évidemment, la liberté, ça c'est ce que tu as dit aussi, d'ailleurs, tu as dit, je sais plus ta phrase, mais au début, là, dans l'introduction, c'est qu'avec le Christ, la libération de la femme doit être un signe du royaume de Dieu, quelque chose comme ça. C'est comme ça que je l'entends. On retrouve une espèce de non seulement projet originel de Dieu, mais c'est encore plus beau, en fait. Hein. C'est encore plus beau ce que fait Dieu. Ce qu'il a fait avec Jésus et Marie, je trouve c'est encore plus beau que ce qui était prévu en Genèse 2. Parce que ça guérit le péché. Enfin, il y a quelque chose de... C'est quoi la question d'ailleurs? C'est quoi la question qui a été posée?
C'était
là
le paganisme.
Oui, le paganisme. Donc je sais pas.
Mon raccourci sur le paganisme. Mais
on peut toujours trouver le problème des statistiques, c'est qu'elles sont fausses à 97%. On pourra toujours trouver, on peut dire, mais toutes les sociétés antiques sont patriarcales. Mais non, c'est pas vrai. Dans certaines îles, dans le Pacifique, les sociétés matriarcales.
La plupart des mythes
de création de l'homme sont misogynes.
Bah oui, évidemment.
La plupart. Mais il y en a quelques, y compris chez les Grecs, beaucoup d'ailleurs. Mais je suis sûr qu'on peut en trouver qui sont plutôt à l'inverse. Mais je dirais que le problème, c'est plutôt de voir comment l'Écriture sainte émerge de tout ça, en fait, avec une espèce d'autorité souveraine. Et le gars qui a écrit Genèse 2-3, franchement, c'est un ovni, on se demande d'où il vient pour arriver à faire un truc qui prend tellement à rebours, y compris ce qu'il vivait lui-même. C'est ça qui m'étonne, c'est qu'en fait, il voit la société qui est autour de lui, il voit que l'homme domine la femme, et il a l'idée générale de dire en fait
ce que voulait Dieu,
c'est exactement le contraire. Ouais. Je trouve ça hyper fort, en fait, comme liberté spirituelle. Alors que partout ailleurs, quand vous voyez les mythes, par exemple, qui légitiment les cultes au Proche-Orient, c'est toujours des mythes qui viennent justifier un état de fait. Là, pour le coup, on peut être un peu marxiste, hein, c'est toujours des superstructures qui viennent légitimer une position de domination. On va dire, bon ben voilà, pourquoi faut payer la dîme importante, tâche importante du laïc, c'est parce que ça permet aux... C'est les dieux qui ont demandé, qui ont besoin des prêtres pour être nourris, et les laïcs ont apporté les bêtes aux prêtres pour les sacrifices. Ça vient toujours sanctuariser un état de fait. Alors que Genèse 2-3 fait l'inverse. Et ça, honnêtement, je trouve que ça c'est... Il n'y en a pas des masses, hein, des textes, enfin, surtout dans l'Antiquité. Aujourd'hui, on est tous révolutionnaires, hein, tellement que ça devient le pire du conformisme, c'est d'être révolutionnaire. Mais dans l'Antiquité, c'était honnêtement, c'était pas le cas. Hein. Donc là, moi, je tire mon chapeau à Genèse 2-3. Je ne sais pas si c'est une femme qui a écrit ça. Il y a des chances que non, quand même.
Qui aura donné l'idée, en tout cas.
Qui a peut-être donné l'idée, oui. Alors, encore une question, parce que le sujet est quand même passionnant.
Moi, c'est pas une question, c'est une remarque par rapport à ce que vous venez de dire. En fait, j'avais remarqué quand on faisait la lecture divina des annonciations à AVC, quand on compare le cantique de Zacharie et le cantique de Marie, enfin, c'est très caricatural ce que je veux dire, mais Zacharie, en gros, c'est le conservateur, c'est l'homme de droite, et Marie, c'est C'est très facile ce que j'ai dit.
Là, pour le coup, je trouve que ce qu'il y a de révolutionnaire dans le cantique de Marie, c'est aussi de prendre acte. Non, mais c'est avec le Christ, ça change vraiment, en fait. Et c'est beaucoup plus fort pour moi, c'est pas tellement. Enfin, bon, je ne veux pas commencer dans des débats. On voit les trucs, mais je trouve que c'est beaucoup plus profond de faire des choses comme Dieu les fait, où nous, on se figure qu'on va faire lire aux gamins dans les écoles des papas portent une robe ou je sais pas quoi, qui se dire, et comme ça. Enfin, quand on a une vision extrêmement optimiste des choses, en fait, on dit il suffira de bien éduquer nos gosses et ils vont guérir de tout. Mais c'est pas comme. Enfin, je pense que c'est très clairement sous-évaluer le péché qui est en nous, et en particulier le péché qui est quand même, qui habite comme beaucoup le corps de l'homme, c'est vrai, de dominer la femme. Mais c'est pas un moment en disant attention, c'est pas bien ce que tu fais. Hein. Il faut quelque chose. Enfin, quand on voit la manière dont Dieu s'y est pris, c'est pas contenter de changer les programmes scolaires. C'est beaucoup plus génial, c'est beaucoup plus beau ce que j'ai fait. Allez, ben je vois que vous êtes à court de. Merci beaucoup.